Alright, quelle belle journée on a, c'est plein soleil. Il y en a qui vont dire qu'il y a un peu de boucan. Ça, ce qu'on reçoit actuellement au-dessus de Québec, ça vient de la Alsama, Saskatchewan, Manitoba, Ontario. Pour ce qui est de l'Ontario, c'est l'ouest de l'Ontario, là, certaines parties de l'Ontario qui seraient en feu. Et c'est la fumée qu'on reçoit aujourd'hui. On nous dit que ça s'estomperait d'ici jeudi. Pour nous autres, ça fait pas grande différence. Pour les gens qui ont un peu plus de difficultés avec leurs poumons, je pense aux gens qui sont asthmatiques, vous devez le sentir. Effectivement.
Moi, je le sens, mais en train à l'extérieur en ce moment, c'est un peu plus difficile. Puis je trouve aussi que le soleil n'a pas le même reflet. T'sais, comme étouffant versus un beau soleil ouais. d'été où t'es bien, tu te fais dorer un peu. Là, c'est, tu te fais fumer, on dirait.
Tu te fais fumer.
On dirait qu'on est une grande viande sur un fumoir.
Humidex, 35 comme température ressentie actuellement. Pour ce soir, ce sera partiellement nuageux avec des probabilités d'averse juste en début de soirée. Après ça, ce serait clair selon Environnement Canada, minimum de 17. Pour ce qui est de demain, mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 31. Humidex de 40 pour ce qui est de demain. Jeudi, des averses maximum de 24 degrés. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23 degrés. 418-971-1001, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. Ça fonctionne par texto, si vous avez des choses à nous dire. Même chose. Je vous en parle souvent. Je parle souvent de la ville de Québec, du centre-ville de Québec. On a parlé de la haute ville de Québec, bien sûr, parce que dans les derniers jours, le Festival d'été de Québec battait son plein et c'était de toute beauté. En basse ville, je vous parle de l'itinérance qui est de plus en plus un problème, de la toxicomanie dans les rues en basse ville qui est de plus en plus un problème, l'alcool dans les rues en basse ville qui est de plus en plus un problème. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en haute ville, ils ont aussi leurs problèmes. Il y en a qui vont dire que c'est des problèmes qui sont peut-être moins gros, mais si vous avez de la misère à dormir le soir chez vous, ça peut être très ordinaire. On a le plaisir de jaser avec Jocelyn Gilbert, qui est président du conseil de quartier Vieux-Québec, Cablan et Colline parlementaire. Bonjour, M. Gilbert.
Oui, bonjour.
C'est ce qui se passe. Pourquoi ça fait du bruit de même entre vos murs dans le Vieux-Québec?
Écoutez, pour garder ça simple, c'est une problématique qui est là depuis déjà plusieurs années. Vous savez que les motos sont interdites à l'intérieur du Québec intramuros, et ça depuis plusieurs années. Là où les citoyens se plaignent davantage, c'est le fait que la réglementation n'est pas appliquée. Si vous entrez, les principales portes d'entrée du Vieux-Québec, vous allez voir des faits où c'est vraiment moto interdite. Sauf que ces dernières circulent allègrement dans le quartier, parfois même au vu et au-dessus des policiers, et il n'y a pas d'intervention de leur part. Donc, là où on en a, c'est s'il y a une réglementation, c'est qu'elle doit être justifiée. Et si la réglementation existe, je pense que c'est de la responsabilité des services concernés de la mettre en application.
Ce que je comprends, M. Gilbert, et puis en plus pour être un adepte de moto, là, c'est que les résidents qui résident à l'intérieur des murs ont le droit de se promener avec leur moto, de sortir du Vieux-Québec et de rentrer dans le Vieux-Québec.
Voilà.
Par contre, des gens comme moi qui habitent maintenant en basse-ville de Québec, dans le quartier Saint-Roch, j'ai pas le droit de monter avec ma moto, aller me promener sur la Grande Allée, montrer mes beaux mollets, puis après ça, descendre jusqu'au début du petit chemin Saint-Louis, dans le Vieux-Québec, puis là, à pouvoir continuer. Je sais qu'il y a une affiche qui était en haut à droite. Est-ce qu'elle a été dégagée? Parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient là-dedans.
Pas toujours facile. Moi, je me suis déjà fait prendre, puis je me sentais criminel.
Effectivement, c'est peu visible, peu connu. Donc, évidemment, il ne faut pas tirer la pierre à la majorité des motocyclistes parce que les gens ne le savent pas. Ça fait partie également de nos demandes. Maintenant, la grande question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi le Vieux-Québec profiterait de cet avantage-là de ne pas avoir de moto bruyante dans son quartier? Alors, j'imagine que la plupart de vos auditeurs sont souvent exposés à des bruits, que ce soit des autos transformées bruyantes ou des motos. Il faut se rappeler que le Vieux-Québec, c'est un petit territoire de 1,1 km² qui reçoit 4,3 millions de visiteurs par année. C'est un milieu avec des rues très étroites, les murs de pierre, donc c'est la parfaite caisse de résonance pour les amateurs de bruit. Et Dieu sait que le Vieux-Québec est peut-être le meilleur endroit pour être vu et surtout pour être entendu. Donc, et en plus, le Vieux-Québec, c'est reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité. Donc, partout dans le monde, les villes qui ont cette reconnaissance-là mettent des restrictions importantes pour s'assurer que le bruit ne devienne pas un inconvénient majeur pour les gens qui viennent visiter ces lieux-là. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle le Vieux-Québec, je dirais, profite de cet avantage réglementaire, mais un règlement qui n'est pas mis en application. Ouais.
C'est quoi le profil des gens qui habitent dans le Vieux-Québec? C'est-tu juste des vieux chialeux ou bien il y a des jeunes familles, des jeunes travailleurs? Parce que je me souviens, moi, de l'épopée avec le Red Bull Crash Ice, là, où il y a des gens du Vieux-Québec qui étaient un peu fâchés de voir qu'il y avait des jeunes qui venaient mener le trouble dans le quartier. Mais le profil des résidents dans le Vieux-Québec, c'est quoi exactement?
C'est des quérulents, là, qui vont à l'hôtel de ville tout le temps bien fâchés.
Oui, il y a de tout. Il y a des vieux chialeux qui chialent sur tout, mais il y a de tout, vraiment. Je vous dirais, c'est à peu près un quart de jeunes, un quart de... C'est à peu près, il y a vraiment de tout. C'est très équilibré. Mais je vous dirais aussi, la majorité des gens qui prennent la décision de venir dans le Vieux-Québec, on vient pour ses avantages. Hein. Puis, puis on les connaît, sont faciles à deviner, les avantages. Ça vient avec des inconvénients. Hein. Il y a tous les grands événements, la plupart des grands événements sont dans le Vieux-Québec. On en profite, mais ça fait du bruit, c'est normal, il faut être capable de vivre avec ça. Comme je vous disais, il y a 4,3 millions de visiteurs par année. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, la proximité des restaurants. Donc, je pense que les gens sont capables de supporter et comprendre que ça ne peut pas être la tranquillité d'un quartier dortoir. Il s'agit simplement là, de garder, d'éviter les excès qui deviennent parfois des irritants majeurs. On parle des motos, mais évidemment, les autos bruyantes, c'est un peu la même chose. Tous ceux qui ont travaillé pendant tout l'hiver sur leurs véhicules pour les transformer, les rendre les plus bruyants possibles, les plus beaux possibles, ben ils viennent au printemps les montrer dans le Vieux-Québec. Et quand on cumule tout ça avec les visiteurs, les grands événements, ben comme je vous disais, c'est une question d'équilibre, de limite à ne pas dépasser, de limite supportable pour les résidents. Et ce qu'on demande à la ville, ben c'est d'appliquer la réglementation quand il y en a une, comme celle des motos.
Peut-être que ça va sembler idiot comme question, mais je me lance, qu'est-ce que ça crée comme désagrément, le bruit de la moto? Une fois qu'elle est passée, ou c'est la quantité,
c'est la pollution sonore. C'est l'accumulation de tous les bruits dans le Vieux-Québec. D'ailleurs, l'an dernier, et puis même là encore, on en refait un sondage auprès des résidents pour savoir quelles sont les priorités, quels sont les principaux irritants de vie dans le Vieux-Québec, qu'est-ce qui affecte la qualité de vie. Puis même si notre sondage n'est pas terminé, c'est certain que l'aspect pollution sonore dans son ensemble est un élément dominant. Il y a les autos, les autos bruyantes, les camions sur le secteur d'Alizy, parce qu'on sait qu'on est près du port. Il y a énormément de camions lourds. Puis il y a bien sûr toute l'amplification sonore. Là. Si vous prenez des marches sur la rue Saint-Jean, là, vous allez voir, c'est facile d'entendre. Chaque commerce a pratiquement sa caisse de son extérieure. Et là, ça devient une cacophonie là, qui est assez importante. Là. Comme je vous dis, c'est juste une question d'équilibre. Quand on vit dans le Vieux-Québec, on sait que ce sera bruyant, il y a des avantages, mais il y a ces inconvénients-là. C'est toujours une question de dosage. Et lorsque vous avez une moto qui passe à minuit le soir ou même en plein jour puis qui fait un maximum de bruit, parce qu'il y en a, vous savez, qui viennent spécialement pour faire un maximum de bruit, ben ça devient extrêmement inconfortable. Et c'est la somme de tous ces bruits-là qui deviennent des irritants importants.
Je me demande des fois, M. Gilbert, pourquoi ce secteur-là, surtout la continuité de la Grande Allée quand ça devient le petit chemin Saint-Louis, pourquoi on ferme pas cette rue-là l'été quand il fait beau? Ça pourrait peut-être aider un peu. C'est tellement un bel endroit pour marcher. Même affaire pour ce qui est de la rue Saint-Jean quand il fait beau. Même affaire pour ce qui est de la Grande Allée
rue
quand il fait beau. Ouais, on met ça piéton, puis merci, bonsoir. C'est pas très compliqué. Là, ce que je vois, c'est qu'ils ont réduit la circulation sur Saint-Louis. Ils ont enlevé une voie complètement. Ça permet aux gens de mettre des terrasses et tout ça. Je trouve ça intéressant. Donc, la circulation est un peu moins présente. Mais pourquoi vous militez pas plutôt pour que l'été, quand il fait beau, que ça devienne piétonnier, puis on laisse juste là, la petite rue en face du château Frontenac ouverte pour que les clients puissent passer. Après ça, on passe à d'autres choses, non?
Ben écoutez, l'hypothèse que vous posez, c'est la bonne. Encore là, si on parle le Vieux-Québec comme une zone historique, patrimoniale, très touristique, mais si on se compare à ce qui se fait dans le monde, ben effectivement, il y a énormément partout ailleurs des villes qui sont... où les zones touristiques patrimoniales sont fermées, toute circulation. Est-ce qu'on ira vers ça éventuellement dans le Vieux-Québec? Il y a déjà des approches. Il y a eu des zones qui ont été apaisées où seuls les résidents peuvent y circuler. Je pense au quartier latin, à tout ce qui est au sud de la rue Saint-Louis, dans le secteur de la rue Sainte-Geneviève. C'est le cas actuellement. Ça a causé, ça a amené beaucoup d'apaisement en termes de circulation. Parce que vous savez, le Vieux-Québec aussi, c'est une zone énormément de transit. Il y a beaucoup de gens qui viennent se promener en auto dans le Vieux-Québec. Ça crée une circulation de transit importante. Et je vous dirais, éventuellement, je suis convaincu que la ville, oui, il y a des réflexions qui sont en cours. C'est pas demain matin que ça va se faire. Je pense que c'est graduel. Il y a des, comme je vous dis, il y a eu des expérimentations qui sont en cours. On voit ce qui se passe sur Saint-Louis. Il s'agirait de voir est-ce que la majorité des résidents, des commerçants aussi, parce que ça a un impact important pour les commerçants. Il y a une réflexion. Je pense que ça doit se faire par essai et erreur, mais je suis convaincu qu'éventuellement, on va migrer vers un vieux Québec, à mon avis, qui sera de plus en plus apaisé au niveau de la circulation automobile. Et vous savez, dans le pourtour du Vieux-Québec, quand vous êtes sur la colline parlementaire, les gens, souvent, on l'ignore, là, mais il y a près de 6000 espaces de stationnement qui sont utilisés de jour, qui sont disponibles et qui sont pleinement disponibles le soir et la fin de semaine pour stationner. Oui. Et je reprends ce que vous disiez. C'est tellement agréable de pouvoir entrer à pied dans le Vieux-Québec sans avoir la contrainte d'essayer de se stationner alors que les stationnements sont très rares.
Ah, l'été, puis quand il y a des festivals l'hiver, on peut fermer ça aussi, on peut mettre ça piéton. Mais quand il fait pas beau, ben pour les citoyens qui vont faire leur épicerie puis ils veulent pas se faire pleuvoir dessus, je pense qu'on devrait laisser ça ouvert tout simplement à la circulation automobile. Ça sauverait bien du tracas, je pense.
Absolument, mais vous savez que votre proposition, elle ne ferait pas nécessairement l'unanimité. Donc, il faut y aller, je pense, à petite dose.
C'est pour ça que je fais de la radio, M. Gilbert.
Pardon?
Pour ça que je fais de la radio, M. Gilbert.
Oui, effectivement.
Si on fait de la radio pour être gentil avec tout le monde, ça ne fonctionnera jamais.
Effectivement.
Merci, M. Gilbert, c'était un plaisir.
Bien, je vous remercie beaucoup du temps d'antenne. Merci.
Au revoir. Jocelyn Gilbert, qui est président du conseil de quartier du Vieux-Québec, Cap-Blanc et Colline parlementaire. Ce qu'on apprend par l'entremise de Brian Rochon du Soleil, c'est que les motos cassent les oreilles des résidents du Vieux-Québec. Effectivement, pour être un motocycliste, moi aussi, j'apprécie me promener à ces endroits-là. Je trouve ça vraiment beau. Puis, fut un temps où la pancarte qui interdisait aux gens qui étaient à moto de passer était masquée. Quand tu la regardais de loin, là, tu la voyais pas du tout. T'sais, moi, je savais qu'elle était là, mais tu la voyais pas du tout. Donc, je comprends que pour quelqu'un qui est en visite à Québec avec sa moto, il n'y a pas l'information.
Non, mais même moi, je l'avais dit en onde que j'allais me promener là, puis j'avais une charrue de texto au 88-971-102 qui me dit « Hey, t'as pas le droit. » Ouais. Je n'avais jamais vu la pancarte.
Il y a juste les résidents en moto qui peuvent y aller, puis les policiers semblent pas nécessairement intercepter chaque véhicule moteur qui passe à deux roues en disant « Hey, est-ce que vous êtes vraiment résident? » Fait que ce qu'eux demandent c'est aux policiers, c'est de faire leur travail. Et c'est vrai que ça peut être tannant quand t'es dans le Vieux-Québec, l'été, puis t'as les fenêtres ouvertes, puis là, t'entends des Harley Davidson qui résonnent, qui ronronnent, puis qui... Tu sais, les gars...
Entre les murs aussi,
on est fiers,
un écho, là.
Tu sais, j'ai déjà été propriétaire d'une Harley Davidson, puis t'es fier de ta moto, puis il y en a qui font plus de bruit que d'autres. C'est juste qu'à un moment donné, il faut apprendre à vivre en société, puis il y a des gens qui habitent là. Puis quand t'es sur une terrasse, puis t'as Gérard qui passe avec son Harley, puis qui décide de crinquer son gaz, là... C'est juste cave, tu sais. Donc, plus de présence policière, parce que de ce que je comprends de M. Gilbert, pour ça, je lui ai demandé s'il y avait juste des vieux chialeux, sont capables d'en prendre dans le Vieux-Québec. C'est juste qu'à un moment donné...
Leur limite est à quelque part.
Exact.
C'est celle-là.
C'est ça.
C'était court. Je pense que ça aussi, ça a joué. Mais les réactions, par contre, à l'article puis à ce sujet-là, il y en a qui sont tellement chaudes. Là. Le monde se réfère à ce qu'on entendait par rapport aux zones qui sont près des festivals pendant une fraction de... seconde pendant l'été. Mm-hmm. Genre, quand t'as Slayer, là, puis tu l'entends jusqu'à Limoilou, d'après moi, en ville, c'est un peu difficile.
Ouais, mais encore là, ils sont prêts à vivre avec ça.
Il y en a qui chialent. Après ça, il y en a qui chialent parce qu'il y a trop de bruit sur un terrain de football, un terrain de soccer, parce qu'ils habitent proche d'une école où il y a un terrain où les jeunes pratiquent. Il y en a qui se réfèrent à ces petits événements-là qu'on a eus où il y en a qui abusaient, en fait, de leur paix et de leur paisibilité, puis de leur bonheur dans leur petite cour gazon rasé à sec. Là. Et où la limite? Parce qu'on dirait que ces gens-là n'ont même pas le droit d'émettre leur opinion par rapport aux motos qui sont déjà proscrites du Vieux-Québec. Ils font juste rappeler puis demander plus de vigilance policière.
Plus de vigilance policière, puis le fait qu'on en parle, ben ça rappelle aux gens d'être un peu plus respectueux. Mm-hmm. Moi, j'habitais au centre-ville de Québec quand j'avais mon Harley, là. Ce qui faisait en sorte que quand j'arrivais chez nous, je me donnais un swing, puis après ça, j'éteignais mon moteur, puis je me laissais aller sur le neutre jusqu'à mon appartement.
Moi, je faisais ça aussi avec mon scooter quand j'étais jeune, mais c'était pour pas qu'ils sachent à quelle heure j'étais rentré finalement.
Oui, c'est ça. Mais moi, c'était juste pour pas réveiller mes voisins, pour pas avoir de plainte. Tu sais, à un moment donné, c'est un savoir-vivre, mm-hmm. puis d'être t'sais, conscient qu'il y a des gens autour de toi. Pense aux clients sur les terrasses qui arrivent, qui s'assoient, qui mangent, puis là, t'as la grosse Harley qui...
Pris à la lumière, là, prise là, puis...
Qu'elle soit à la lumière, c'est telle que telle, un Harley sur le neutre, ça fait du bruit, mais pas tant. Mais plus quand le gars, il décide que lui, il veut se faire un show, puis il veut se faire remarquer, c'est tannant pour tout le monde, incluant les automobilistes qui sont autour. Fait que de sortir une fois de temps en temps dans l'actualité pour dire aux policiers, à la mairie, faites votre job, puis nous autres, on va continuer de tolérer ce qu'on peut tolérer. Je trouve que ça fait pas de mal à personne.
Puis il est capable de discuter, on l'a vu, là. C'est un homme qui a eu une conversation avec nous. J'ai eu l'impression, en bouquant l'entrevue, qu'ils étaient prêts à avoir un débat, tu sais.
Ben oui!
Je pense qu'ils se font littéralement envoyer promener depuis qu'ils ont pris la parole dans les médias à ce sujet-là.
Tu sais, puis... Il y a des auditeurs qui doivent penser « Ouais, mais Yann, si tu vas t'établir proche d'un aéroport, c'est normal que les avions passent au-dessus de ta tête. »
Je suis un peu d'accord.
T'es entièrement d'accord avec vous autres. Mais l'avion, s'il passe à 200 pieds de ma tête, là, c'est sûr que moi, si j'habite à côté de l'aéroport, je vais me plaindre. Tu comprends? Parce que techniquement, il est supposé passer plus haut. Puis là, ben il passe comme s'il était dans ma propre chambre à coucher. Puis à 2 heures du matin, je me fais réveiller. C'est pas supposé d'être comme ça. Fait que c'est la même affaire pour sur les lacs. Il y avait eu des lacs où il y avait des problématiques avec les avions. Lac Saint-Augustin, entre autres, qui était une piste d'atterrissage pour les hydravions. Il y en a qui abusaient. Ben, les citoyens se sont juste plaints pendant un certain temps, puis tout est revenu à la normale.
À Lac-Beauport, en haut, à Québec, il y avait l'année passée ou l'autre année d'avant des grandes discussions puis des débats aussi sur les bateaux à moteur. Parce que là, t'en avais des résidents autour du lac qui voulaient faire de la paddleboard, qui voulaient faire du kayak, qui voulaient faire de la planche à voile de je sais pas quoi. Puis là, ils étaient tannés des bateaux de wake. Il y aura toujours un genre de concession à faire quand on vit en société. Et Maxime, qui nous écrit au 88-971-101, qui dit « Il y en a tout de même des chialeux du côté du Vieux-Québec. » Il dit « J'ai déneigé 10 ans de temps dans le Vieux-Québec, justement, dans le secteur Château-Frontenac. » Puis on avait des plaintes de bruit souvent. Mais on avait aussi des plaintes quand c'était pas assez déneigé. C'était pas super le fun.
Mais quand tu travailles dans le service comme tout. Ça, tu sais, déneigeur, pauvre déneigeur qui est dans son truck, hey. Puis essaie de faire son possible, puis il se fait engueuler. Mais là, je peux en parler, là. J'habite plus à Val-Bélair. Un de mes voisins, quand le gars des poubelles passait, engueulait constamment le gars des poubelles parce que le gars des poubelles remettait pas le bac à poubelle à l'endroit exact où lui avait déposé son bac à poubelle.
Okay.
Puis quand il faisait pas, il sortait, puis là, il levait la main dans les airs, puis là, il voulait parler au gars qui était chauffeur.
Okay.
Puis là, il expliquait que quand il passait devant sa maison, qu'il ramassait son bac, c'était important qu'il le remette à la même place.
Okay.
Parce que sinon, s'il était dans la rue, ben ça se peut qu'il perde son bac, puis ça coûte cher un bac. Il l'engueulait tout le temps.
Okay. Il y a des endroits pour ça, mettons, à la maison avec votre lave-vaisselle, dans votre couple, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est rendu que ça impacte les gens qui n'ont rien à voir dans votre vie, puis qui font juste leur travail.
Il y en a qui sont de même, puis tu sais, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. On me dit que Mme Pinchot me dit que sur la 40, c'est un chiard. C-H-I-A-R. C'est un chiard. Elle est à 5 km/h depuis 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là, Pascal?
Je te vérifie ça. J'ai la 40 est, hauteur Henri IV. La voie centrale, la voie droite sont bloquées. Il y a un accident. Alors, bonne chance, Audrey. Par contre, ça s'est résorbé. On a ramassé tout ce qui était débris de l'accident. Sauf que ça a perturbé le secteur assez longtemps pour que vous ayez encore des vagues de tout ça dans la circulation.
Pascal, je te pose une question.
Vas-y,
quel
je te
est
réponds.
L'endroit au Canada où les prix des propriétés augmentent le plus rapidement?
Québec.
Ça serait la ville de Québec? Ce serait pas Montréal?
Canada.
Hey, Montréal, ça coûte
Vancouver.
Une beurrée, là. Tu t'achètes un cabanon, c'est 1 million.
Je sais pas, on dirait qu'on est tellement les deux pieds dans Québec qu'on s'en fait tout le temps parler que Vancouver, je trouve que c'est complexe, mais peut-être Québec.
Dans tous les endroits au Canada où les prix des propriétés augmentent le plus rapidement, Québec est la ville numéro 1 pour ce qui est des augmentations.
C'est pas une fierté, hein?
Il faut désormais se préparer à un prix de 470 000 $ pour une maison unifamiliale dans la vieille capitale. Pascal, qu'est-ce que t'attends?
Pour acheter?
Pour acheter. Vous me faites capoter à rester sur le side en disant...
Je sais, t'arrêtes pas de me le dire, mais là, tu me fais stresser.
Ça va peut-être descendre à un moment donné.
J'ai jamais dit ça.
Dépêchez-vous, embarquez dans le bandwagon. À un moment donné, vous allez avoir un combat pour acheter votre maison.
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je veux-tu te battre?
Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une maison actuellement?
Ben,
l'entretenir.
Faire des bébés?
Avec qui?
Ben, le gars qui t'a passé son char.
N'importe quoi! Quand ça, l'itinérant dans la rue, c'est quoi, là?
Ah, OK, il est si pire que ça.
Ah non, hein, franchement, c'est parce que là, parle pas des rumeurs.
Donc, dans les derniers mois, le prix médian d'achat des propriétés de tout type a grimpé de 13,5% à Québec par rapport à la période d'avril à juin 2024. C'est la plus forte croissance à l'échelle provinciale et nationale et l'histoire se répète donc depuis un 15e mois consécutif. Et ce qu'on dit... Prix d'achat médian des propriétés à Québec pour avril et juin 2025. Pascal,
oh, vas-y.
Si tu veux une maison unifamiliale, le prix médian, 468 100 $. Une copropriété, 328 200 $. Ce qui fait une moyenne de 439 100 $ tous les types confondus. Donc, unifamiliale, une petite maison détachée, là, comme on rêve tous là, d'élever nos enfants, mm-hmm. avoir notre petite famille là-dedans, c'est 468 000 $ à Québec.
Je suis pas sûr encore que c'est la chose la plus payante à faire en ce moment. Mais je comprends que ça augmente énormément. Puis je sais que toi, tu es un fervent de l'investissement immobilier.
Oui, parce
t'es
que
vendu,
j'en ai bénéficié beaucoup.
Exact.
Là. Tu sais, là, j'ai vendu ma maison, puis je peux te dire que j'en ai eu plus que j'espérais.
Mais est-ce que tu as eu le retour de la pandémie? Parce que toi, tu as acheté en surenchère en pandémie. Est-ce que tu as réussi à avoir ton retour?
J'ai acheté presque à 100 000 de plus, 100 000 de plus que ce que ça valait
ouais.
pendant la pandémie, en raison du fait qu'il n'y avait pas de maison disponible, puis j'étais en surenchère. Fait qu'un 100 000 de plus... Puis j'ai eu pas mal plus que ça.
OK, fait que t'as réussi à le rentabiliser.
J'ai réussi à rentrer.
Parce que ça t'inquiétait à un moment, là? Ben, pas inquiété, ben, genre à pas dormir.
En même temps,
mais
je me disais que j'allais rester là-dedans 10, 15, 20 ans, là.
C'est réussi?
Oui. Tous mes objectifs sont réussis. Quelle mise de fonds, Pascal? Mm. Quel revenu faut-il pour acheter une propriété à Québec? Pour acheter une maison unifamiliale détachée, la mise de fonds minimale... C'est 23 405 $.
Ouais.
Puis je vous répète que la maison unifamiliale détachée, là, elle vaut 468 000 $. Donc, on comprend que ce n'est pas le 20 % de cash down demandé. Vous devez passer par la SCHL. Et il y a une prime en plus qu'on paye avec les SCHL. Mais ça vous permet d'avoir une mise de fonds minimale. Donc, la mise de fonds minimale actuelle avec la SCHL, c'est 23 405 $. Combien faut que tu gagnes? T'es seul, toi, Pascal? À ce que tu dis à la radio, là? T'es seul?
Mm.
Bon. Combien faut-tu gagner minimalement pour avoir accès à une maison de 468 000 $?
Vas-y.
Donne-moi un prix.
Je sais pas. Mais...
Tu gagnes combien?
Seul, t'es-tu dans le 100 000?
Tu gagnes combien?
Je dis pas combien je gagne.
OK. Revenu annuel minimal, 103 000 $
ouais,
si t'es
ça.
Seul.
Ouais, c'est ça.
Revenu familial, donc
pour
on
le
comprend,
prix moyen,
si le revenu familial est de 103 000, vous êtes correct. Mais si vous êtes seul, c'est 103 000 $. C'est indécent. Ça n'a pas de maudit bon sens. Les copropriétés, ben là, la mise de fonds minimale, c'est à 16 410 $. Puis le revenu annuel minimal pour une copropriété, c'est 84 000 $.
Puis j'ai l'impression qu'avec ton 100 000, tu es quand même un peu dans merde au final à la fin de ton mois. Avec
oui.
ton hypothèque, avec tout ce que tu as à faire comme dépenses, mettons, si tu as ta voiture également, ton épicerie, une personne qui achète seule à 400 000 en ce moment, à 100 000 $ de salaire, tu peux carocher un peu.
Tu sais, j'ai été chez le notaire, là.
Oui.
Puis j'ai entendu la nouvelle taxe de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, là, quel nom de marde, pareil, qu'on avait donné dans le temps. Mais la taxe de mutation. Puis la notaire a dit, ben vous allez devoir à payer ça comme taxe de mutation, puis ça m'arrachait le cœur.
Oui.
Ça m'arrachait complètement le cœur. Tellement que je me suis dit, je devrais peut-être le vendre ma maison moins cher.
Mais
ils vont être capables de payer cette taxe de mutation? Là, visiblement, ils ont même pas flexé des yeux.
Oui, mais ils devaient s'en attendre.
Ils étaient corrects.
Tu fais des études quand tu veux acheter, puis on s'entend.
Tu sais, la notaire, elle, les notaires sont froid. Là.
C'est leur job au quotidien.
Ils vont dire, bon, taxe de mutation, puis là, je dis ça, je dis rien, mais taxe de mutation, 23 000 $. Fait que c'est juste ça que vous avez à payer, puis après ça, c'est correct.
C'est juste ça. Puis ça va augmenter aussi vos taxes... hypothécaire à chaque année à Ville de Québec, on est bon là-dedans. Mais imagines-tu l'argent? J'ai fait la corrélation dans ma tête entre l'argent qu'on va chercher comme ça chez les nouveaux propriétaires ou ceux qui achètent des nouvelles maisons, qui switchent, peu importe, et ce qui rentre dans le coffre de la ville. On peut bien être au-delà avec tout ce qui a été ajouté comme montant au chéquier qu'on doit à la Ville de Québec cette année, là. Imagines-tu, premièrement, énormément de ventes de maisons, donc des gens qui achètent, tu as cette taxe de mutation-là à payer, tu as l'augmentation hypothécaire que tout le monde a vécu un peu partout dans la Ville de Québec par rapport à l'administration Marchand. J'aimerais ça voir le montant total, moi, pour les deux dernières années, tiens.
Ah non, c'est indécent. Puis, tu sais, c'est tout aussi indécent ailleurs. À Sainte-Marie, quand j'ai vendu ma maison à la mère de mes enfants...
Là, on retourne il y a six ans.
Ça date de v'là 6 ans, OK? Ça faisait 7 ans à peu près qu'on était dans cette maison-là. Puis, on s'est séparés. Puis là, j'ai dit, ben quand tu seras prêt à acheter la maison, tu achèteras la maison, puis on passera chez le notaire. Fait qu'à un moment donné, après quelques mois ou quelques années, je me rappelle pas, elle me dit « C'est beau, je suis prête à acheter la maison. » Fait que je m'en vais avec elle chez le notaire, je m'assois. Puis ça, c'est une information que j'avais pas. Moi, je suis pas très vite dans la vie, là. Fait que j'apprends avec mes expériences. OK, fait que faites-moi vivre
mais
des expériences.
Mais c'est long, ces expériences.
Faites-moi vivre des expériences, je vais apprendre. Puis là, j'ai le notaire qui m'apprend que la mère de mes enfants, faut qu'elle paye une fucking taxe de mutation.
Sur
parce
sa
qu'elle
propre
achète...
maison, mais elle achète ta part.
Elle achète ma portion. Mm. Fait que là, je dis au notaire « Mais non, ça marche pas. » Je l'ai payé, moi, la taxe de mutation. Puis là, ben elle achète la maison. Elle part repayer ça une deuxième fois.
Non, c'est
puis là, le notaire dit « Monsieur, je comprends très bien ce que vous êtes en train de me dire, là, mais c'est de même, je peux rien faire. »
Sur la valeur totale ou sur la valeur de l'autre portion?
Très bonne question, je ne m'en rappelle pas. Mais moi, c'est une question de principe, là.
Ah non, je comprends ton
point.
C'est
une séparation, c'est la même personne qui est sur l'hypothèque.
C'est la même maison.
Elle reste là, ouais. Elle ne bouge pas. Il y en a juste un qui est parti. Puis tu y recharges une taxe de mutation, ces villes-là, cette maudite taxe-là, c'est des taxes de voleurs. Excusez.
Non, mais je pense que tout le monde est d'accord avec toi,
okay.
Ça fait aucun sens.
Dominique m'écrit personnellement au 418-971-1021. Il dit « Pascal ». En fait, il dit « Yannick, peux-tu dire à Pascal, quand elle sera prête à acheter une maison, de me faire signe, on achètera ça à deux, la maison. Je souhaite revenir à Québec éventuellement et tu ferais une très bonne coloc, Pascal. »
Ah oui, OK.
Merci Dominique, c'est quoi ta marque de char?
Merci Dominique, c'est smart.
C'est quoi ta smart. Marque de char, Dominique?
Patrick aussi, c'est vraiment smart. Hein? Si Pascal achète une maison, je vais y en faire des bébés. Merci beaucoup d'être là pour moi, j'apprécie.
Ah oui?
Ouais, fidèles auditeurs.
Mais Pat, donne pas ton ADN de même, vends ça.
Ah!
Vends ça.
Toi, Starbucks. Là.
Elle te mérite pas.
Toi, Starbucks. Non, ça va être correct, Christian.
Christian
non,
qui dit que c'est le nom du juge Bienvenue qui avait sorti cette fameuse taxe-là à l'époque. Ça, c'est une légende qui a couru pendant des décennies.
Mais c'est bon,
des
c'est
décennies,
une bonne farce.
Des décennies. C'est juste que le juge Bienvenue n'est pas... Il n'est pas arrivé en poste lorsque cette taxe-là avait été mise en place. Puis, si vous vous souvenez bien, pour la petite histoire, qui était l'attaché de presse du juge Bienvenue à cette époque-là? André Arthur.
On recule d'il y a plusieurs années.
Et quand j'avais parlé à M. Arthur, j'avais dit, « M. Arthur, c'est pas de bon sens, le monsieur pour qui vous avez travaillé, c'est lui qui a fait la taxe de bienvenue. » Il m'a éduqué! comment je dirais
mais bonne
ça?
Chance. Bonne chance. Je ne sais pas si les gens veulent partager combien de taxes de bienvenue ou encore d'augmentation municipale qu'ils ont payé cette année au 88-971-1021. Mais le marché de l'immobilier, oui, je comprends. Il faut rentrer tout de suite dessus. Yannick,
dépêchez-vous.
Mais... ça fait saigner le monde pareil.
Ben, je comprends. Mm. Je comprends. Dominique m'envoie la
arrêtez
marque
de me
voiture.
Dire vos maths.
À vendre. On va regarder comment ça vaut. Oh boy. OK.
OK. Je pense que c'est l'heure de la pause. Il est midi, puis on a un gros pacing de show.
Dominique,
Yann.
Qui voulait acheter la moitié de la maison avec toi, Pascal, ouais. Se promène avec un Volvo V60 2020.
Je dis plus rien. Je suis pas un animal de foire, Yannick Marceau, Seigneur.
Volvo. Attends un peu, là. Non, je suis ton agent.
Ah oui, c'est ça. Tu t'avais de me mettre en cage, de demander aux gens un genre de 10$ pour venir me voir puis me pitcher des pinottes. Ça va être assez.
Attends un peu, là. J'en ai un ici, là.
Ah oui, super.
Un V. C'est un V60, c'est ça qui est écrit?
Pas.
Ah, mais c'est un char comme le mien, là. Non, ça vaut pas la peine. Pascal, non.
T'es mon agent.
Ouais.
Extraordinaire.
Ça marche pas.
Hey, merci.
On fait une courte pause, on revient.